Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous propose aujourd'hui de poursuivre notre fascinante conversation avec Yves de Belval dans le cadre de sa chronique « Les chemins et leurs vertus ». D'abord, un bref rappel du parcours de notre globe-trotter philosophe. Yves de Belval est un grand voyageur depuis toujours. Il a voyagé pour toutes sortes de motifs. Voyage d'études dans sa jeune vingtaine, puis voyage d'affaires, voyage ensuite avec la famille, vacances à l'étranger et voyage en solitaire. Son plus grand voyage a eu lieu au début de sa soixantaine, un périple d'environ 3 ans autour du monde. Cette grande aventure a débuté par son premier chemin de Compostelle, parcours qu'il reprendra à plusieurs reprises par besoin de ressourcement annuel et pour venir en aide à des enfants pour lesquels il marche. Tour à tour dans sa chronique, Yves nous entretiendra de la simplicité, de la générosité et des autres vertus que nous amènent à découvrir les randonnées de longue durée. C'est toute une philosophie de vie qui se dégage de ces entretiens que j'ai eu le privilège d'amorcer à l'été avec Yves alors qu'il s'apprêtait à repartir, eh oui, pour une autre randonnée au long cours quelque part en Europe. Notre premier entretien avait porté sur cette grande vertu que lui a inspirée Compostelle, soit la simplicité. Et c'est en toute simplicité que nous poursuivons aujourd'hui notre exploration des chemins et leurs vertus. J'avais aussi le goût de vous faire découvrir au cours de notre émission deux merveilleux artistes de chez nous, Noémie Raymond Friset au violoncelle et Michel-Alexandre Brocart au piano. Ils se nomment Duo Cavatine et, selon Carole Trompe du Journal des citoyens, ces deux impressionnants musiciens contribuent à ériger l'édifice de notre culture musicale québécoise. Sur leur plus récent disque intitulé « Celle opéra », Duo Cavatine nous offre une adaptation de quelques grands airs d'opéra, soit « L'Acmé » de Léo Delibes, « Variation de Beethoven » sur un air de la flûte enchantée de Mozart et « Una furtiva lagrima » des Donizetti. Alors, place à la musique et place à la parole.
Thank you.
Alors bonjour Yves et bienvenue à cette troisième chronique de la série Les chemins et les vertus. Lors de notre première chronique, nous avons parlé de la simplicité de la marche et dans la deuxième, la simplicité matérielle, c'est-à-dire axée sur le sac à dos. Oui. Et pour cette troisième, nous allons poursuivre un peu sur la question de la simplicité matérielle qui est en fait une affaire d'apprentissage.
Oui, c'est une affaire d'apprentissage. Et je le répète, on n'atteint pas la simplicité au point de départ. Ça s'apprend. Et c'est comme la vie. La vie est une bonne maîtresse. La vie est un bon maître. La vie est riche en enseignements. Et puis, ben, le chemin aussi. J'ai à l'esprit une parmi plusieurs des expériences que j'ai connues et qui démontre que, chemin faisant, on apprend à simplifier matériellement sa vie, en quelque sorte. J'étais parti, cette fois-là, de Compostelle, vers la France. Donc, il y avait des gens qui, eux, étaient partis de Saint-Jean-Pied-de-Port. Hein? Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un magnifique petit village au pied des Pyrénées, en France. Et c'est le dernier village avant de franchir les Pyrénées par la montagne. Donc, on peut dire, dans tous les sens du mot, que c'est un haut lieu des chemins de Compostelle. Chaque année, là, de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a des dizaines de milliers de pèlerins qui entreprennent leur chemin. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est un périple de 800 km vers Compostelle. Et je dirais, la plupart d'entre eux sont des novices. Ils commencent, là. Ça se voit par les chaussures neuves, l'équipement neuf et tout. Là, ça ne restera pas neuf très longtemps. Donc, ils entreprennent, là, un périple de 800 km. Et, c'est une des étapes les plus difficiles. Vous avez un dénivelé sur des centaines de mètres en partant. Ils ne sont pas habitués et vous avez une descente importante quand vous arrivez en Espagne. Bon, alors, 100 km plus loin, on les retrouve. Déjà, on en a perdu un certain nombre, là. Ils se sont blessés ou autres, ils étaient trop chargés, etc. Mais on en retrouve un bon nombre, 100 km plus loin, dans un très beau village qui s'appelle Estella. Alors, ils ont franchi 100 km et ils ont connu la traversée des Pyrénées, la difficile descente. Ils ont connu une autre descente qui s'appelle celle de la Sierra del Perdón, la colline du Pardon, passer la belle ville de Pamplune, où on descend dans des galets fuyants, très difficiles pour le pied. Ils sont chargés, là.
Mm-hmm. Oui.
Ils n'ont pas encore appris la simplicité matérielle.
Ça viendra.
C'est ça. Alors, ils portent, pour plusieurs d'entre eux, des sacs trop lourds, et puis ils souffrent en conséquence. À Estella, à l'entrée de l'auberge municipale, ils ont eu l'idée de placer une grande boîte qui attend les pèlerins. Et là, ben, c'est écrit dans plusieurs langues. Écoutez, vous pouvez déposer dans la boîte ici les objets dont vous pourriez vouloir vous départir. Alors, un soir que je passais là, j'ai décidé de fouiller dans cette boîte pour voir qu'est-ce qu'il y avait qui n'était pas nécessaire, puisque finalement, on s'en est départi là, donc on n'en avait pas besoin. Regardez bien les choses que j'ai trouvées. Un séchoir à cheveux. Bon, je vous ai dit, j'ai un seul savon pour faire le corps, la lessive et tout cela. Séchoir à cheveux, là, sur les chemins, là, le vent, là, ça va vous faire sécher les cheveux. N'ayez pas crainte, mais bon, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, on part avec un rasoir électrique. Bon, si on veut se raser, oui, mais c'est un poids, un rasoir électrique. Bon, il y a des petits, vous savez, des petits rasoirs là, jetables. Là, prenez deux ou trois, et puis à tous les 6 jours, ben, vous rasez ça un peu. Là. Ou encore, comme beaucoup font, ils décident, je me laisse pousser la barbe, puis à Compostelle, j'irai chez le Figaro, c'est tout. Donc, c'est là. Alors, j'ai trouvé un éventail portatif avec des piles électriques. Ça, c'est vraiment formidable. Là. J'imaginais son propriétaire là, qui marche avec deux bâtons,
Donc, un bâton dans, en chaque main sur un sentier traversé par des racines. Et puis, ben, il met où son éventail entre ses dents? Un tube de 400 grammes de pâte d'argile verte, prête à l'emploi. Alors, vert, là, c'était écrit en gros, là, j'ai eu l'impression que la couleur était très importante. Autrement dit, vert, vous savez, on associe ça à la nature, etc., à l'écologie. Donc, là, quelqu'un a eu l'idée de dire, elle va être verte, là, cette pâte d'argile, là. Bon, quoi d'autre, donc? Un tube de cirage qui était indiqué « Express soin total pour cuir marron ». Ah, bon, pour cuir marron. Donc, ça veut dire que pour cuir noir, il en prend un autre, pour un par couleur, quoi. Pourquoi pas? Là, vous allez alourdir pas mal votre sac, mais je me demandais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Alors, j'ai dit, bon, on va chercher le pèlerin, là. Avez-vous vu passer un pèlerin avec un gros sac qui portait un veston marron, là, s'il vous plaît, là? Son tube est ici, à STIA, là. Bon. Des escarpins vernis noirs. Pas marron cette fois-là, noir. Sans nul doute pour des dîners de tête là, dans des restos 5 étoiles, mais il n'y en a pas sur le chemin de ces restos-là, évidemment. La nourriture est bonne, elle est saine, mais on n'est pas dans les grands, on n'est pas dans la gastronomie, là, dans la grande gastronomie. Il y avait un réveil matin, gros comme ma tête, là. Tout un réveil matin. Il y avait un oreiller gonflable. Il y avait une gamme de prises électriques là, complète, assez pour faire deux fois le tour de la planète. Mais je sais ce dont je parle. Donc, c'est des exemples du contenu de cette grande boîte dans laquelle les pèlerins ont laissé ces objets. Ils se sont délestés. Ils ont simplifié matériellement leur sac. Ben, bravo. Et puis, c'est des erreurs de débutants qui, parfois aussi, tiennent à des cadeaux là, encombrants faits par des amis bien intentionnés qui, tout juste au moment du départ, là, puis c'est des amis qui n'ont jamais fait le chemin, là, tiens, prends ça avec toi, là, ça pourrait être utile. C'est peu, mais c'est de bon cœur, sauf que ces petits peu de bon cœur qui s'ajoutent dans le sac, ben, ça finit par mettre du poids. Donc, je voulais vous parler de cela pour vous montrer que, oui, ça s'apprend.
Donc, on peut apprendre.
Oui,
on
ça s'apprend.
On peut apprendre à être simple.
Matériellement simple, comme pour le restant, oui. Ça s'apprend, oui. Oui. Pourvu qu'on soit docile, hein? C'est-à-dire pourvu qu'on écoute.
Oui.
Parce que, après mes nombreux chemins, ben là, quand je croise un pèlerin, là, que je vois bien qu'il est endolori, là, et je veux lui donner un coup de main, eh bien, je lui dis, peux-tu peser ton sac à dos? Je peux-tu prendre ton sac à dos? Des fois, pour t'en départir, pour que tu puisses te reposer. Et là, parfois, je dis, regarde, prends le mien pour voir. Et là, il est tout étonné. Il me dit, mais il n'y a rien dans ton sac. Bien, je dis, regarde, je roule avec ça depuis plusieurs années, et puis ça va très bien. Donc, c'est ma façon de transmettre un peu ma connaissance par l'exemple. Là. Ben, s'il est docile, il va apprendre là aussi à cela. Alors, il y a tellement d'objets superflus qui peuvent encombrer le sac, l'alourdir inutilement, mettre en péril la marche, puis pas seulement la marche, mais le cheminement. Hein? Parce que, vous savez, là, on parle des fois de l'esprit du chemin. Mm-hmm. Moi, je vais vous dire une chose. Là. Quand le corps ne fonctionne pas, là, parlez-moi pas de l'esprit du chemin. Là. C'est le corps qui décide et puis il n'y a rien à faire avec l'esprit. Il n'est pas là. Donc, ça peut nuire à ce que j'appelle le cheminement. Il y en a qui partent avec des objets comme s'ils allaient se retrouver hors de la civilisation. C'est pas ça, les chemins de Compostelle, là, ce sont pas des pistes de brousse. Là. On trouve dans beaucoup de villages une pharmacie et d'autres services. Et puis, il y a une chose qui est formidable aussi en chemin, l'entraide entre les pèlerins. Ça dépanne. Et puis, un dernier piège peut-être, les hauts casous. Alors, je vais apporter ça au cas où. Bon, les exemples, là, c'est assez simple. J'ai vu quelqu'un, il se promenait avec un sifflet. Mais pourquoi un sifflet? Nos sacs à dos, ils ont tous un sifflet intégré dans une des courroies. Je lui ai montré, je lui ai dit, gars, mais t'en as un sifflet, là, il fait partie de ton sac à dos. Les compagnies y ont pensé. Ou encore les allumettes à l'épreuve de l'eau. Ça, c'est vraiment formidable. Là. Vous êtes en forêt, vous vous imaginez en forêt, et là, vous dites, ça me prend des allumettes au cas où il pleuve à l'épreuve de l'eau. Alors, vous imaginez, là, vous êtes en forêt, il pleut abondamment, le bois est tout mouillé, mais vos allumettes, elles sont à l'épreuve de l'eau. Mais j'ai jamais fait feu en forêt, dans aucune des forêts que par lesquelles j'ai passé. Donc, alors, réduit à leur plus simple expression, les objets résiduels voient leur valeur augmenter aussi. Ça, c'est un aspect intéressant. Je vous ramène sur un chemin que j'ai fait en 2010. J'étais parti sur le chemin de Vézelay. Et là, dans un refuge, c'est des choses qui arrivent, ça. Ça, c'est le délestage involontaire. Dans un refuge de pèlerins, j'ai oublié le seul vêtement chaud dont je disposais. Non, c'est pour ça. Ah, ça, c'est involontaire. C'est pas, oui. On n'est pas dans la vertu de simplicité, là. On est dans l'oubli, la distraction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé ceci, c'est que j'ai attrapé à un moment donné une nuit, un froid inattendu, et puis qui pouvait être cruel. Là. J'ai été surpris par cette chute de mercure subite. Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti de mon sac tout ce dont je pouvais me vertir. Je m'en suis couvert, et puis j'ai dormi. Et ce fut tout, ou presque tout. Pourquoi? Pas tout à fait tout, parce que je venais d'apprendre, je poursuivais mon apprentissage. Je venais d'apprendre la contingence de ce vêtement chaud que je croyais pourtant essentiel. Alors, voyez-vous, les façons d'apprendre ici, ma distraction m'a appris que, ben non, il n'est pas si nécessaire que sur ce vêtement-là.
Une grande leçon, effectivement. Alors, quand nous avons parlé de la simplicité de la marche auparavant, vous avez mis un accent particulier sur la bonté de la lenteur. Aujourd'hui, à propos de la simplicité matérielle du pèlerin, vous mettez l'accent sur la bonté de la légèreté.
Oui, oui, en effet. Les pèlerins modernes, croyants ou incroyants, tous confondus donc, ils sont appelés à avancer avec un sac léger, un cœur léger, un esprit léger. Si le chemin-là transforme, comme beaucoup le disent, il faudrait que cette transformation imprègne la vie de tous les jours au retour à la maison. Et là, l'apprentissage se poursuit, non plus sur le chemin, mais à la maison. Nous vivons, c'est évident quand on a passé... Moi, j'ai passé là 800 nuits sur des chemins de Compostelle. Donc, ça, c'est plus de 2 ans au total. Et puis, j'ai fait 3 ans autour du monde avec un sac à dos. Et donc, je peux pas ne pas constater, quand je rentre après ces longues marches, après ces longs voyages, que nous vivons dans un monde d'objets et que nous pouvons être piégé en quelque sorte par cette quantité d'objets-là. Dans notre société, nous confondons besoin et désir. Et nous pensons souvent satisfaire un besoin alors que nous ne faisons que satisfaire un désir qui nous vient de ce que j'appelle, selon le titre là, du livre de Vance Packard, « La persuasion clandestine ». Alors, ça nous encombre, ces objets en quantité, ça encombre nos univers personnels, ça bloque et bouche nos horizons vers l'essentiel. Alors, pour vivre heureux, nous n'avons pas besoin de tous ces objets que la publicité nous présente comme des gages de bonheur ou de liberté. C'est vraiment insidieux, hein? Mais c'est comme ça que ça se passe très souvent. Ces pubs sont de véritables mensonges évidents pour quelqu'un comme moi qui a marché ainsi pendant des mois et des années. Alors, les pèlerins, quand ils arrivent après leur marche de Compostelle,
on leur dit, là, tu vas retourner à la vie normale. Vous n'êtes pas obligé de retourner à la vie dite normale. Vous pouvez profiter de l'apprentissage que vous avez eu. Mon premier chemin de Compostelle, je vous le disais, a débuté par un voyage de 3 ans autour du monde.
Oui.
Quand le temps fut venu là, de rentrer à Montréal, quelques mois avant, j'ai communiqué avec un de mes fils, celui qui gérait des appartements que j'avais à Montréal. J'avais 4 appartements là. À Montréal. Alors, moi, j'avais occupé, avant de partir, un appartement qui faisait 160 mètres carrés, là, à peu près 1700 pieds carrés, comme on dit. Mais quand est venu le temps de revenir, j'ai dit à mon fils, je ne suis pas capable de rentrer dans cet appartement-là, je vais me sentir perdu, c'est beaucoup trop grand pour moi. Alors, réserve-moi le plus petit des appartements, celui qui fait 45 mètres carrés, ça va être parfait. Et j'avais appris à vivre pendant quelques années comme ça à l'intérieur, pour ainsi dire, de mon sac à dos. Donc, on peut apprendre et transférer dans notre vie hors chemin ce que le chemin nous a apporté et comment il est parvenu à nous aider à simplifier notre vie.
La simplicité passe par le sac à dos. En fait, le concept du sac à dos, c'est de simplifier complètement au maximum nos possessions.
Ce serait l'idéal. Oui. C'est pas nécessaire, comme j'ai dit, on peut faire quelques compromis, mais si vous avez trop de poids, sachez que le poids, c'est l'ennemi. Et en même temps, quand vous vous réduisez de façon significative, pendant une durée de temps significative, et bien là, vous arrivez à la conclusion que j'ai pas vraiment besoin de tous les objets qui m'encombrent pour bien vivre heureux. Là, le bonheur n'est pas dans ça. Il est où, le bonheur? Mais il est dans la simplicité.
Très beau message pour conclure cette chronique, Yves. La prochaine fois, vous nous parlerez encore de simplicité, mais dans une autre dimension.
Oui. La prochaine fois, nous allons échanger, Denis, sur le dépouillement mental et psychologique.
Yves, oh là là, quel programme! Ouais,
le délestage mental et psychologique, oui.
J'ai bien hâte d'entendre. Merci beaucoup, Yves.
Au plaisir.
À la prochaine.
Thank you.
Alors, nous voici à notre quatrième chronique, Les chemins et les vertus, en compagnie de notre globe-trotter philosophe Yves de Belval. Bonjour Yves.
Bonjour Denis.
Alors Yves, aller pas à pas en toute simplicité, nous en avons parlé lors de notre premier rendez-vous. Avancer le plus léger possible dans un esprit de détachement, nous en avons réfléchi lors de notre seconde et de notre troisième rencontre. Cela n'indique pas toute la force de la simplicité sur vos chemins de Compostelle, n'est-ce pas? Il y a autre chose.
Ben oui, ça n'indique pas tout. En effet, la simplicité est plus vaste que ça. Cheminer vers Compostelle à pied est tout simple. Et là, j'ajoute un élément dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Il suffit de suivre les balises en insistant sur « suivre ». Les balises, suivre le fléchage, suivre les bornes qui indiquent la direction. Donc, à suivre, c'est ça. C'est en ça que consiste le chemin. Mais suivre, là, c'est en quelque sorte renoncer. Mais on renonce à quoi exactement? Eh bien, on renonce à la force du pouvoir, par exemple. Suivre, c'est reconnaître la contribution essentielle de celles et de ceux qui nous ont précédés.
Mm-hmm. Oui.
Vouloir faire seul son chemin, c'est risquer le cul-de-sac, l'impasse. Alors, il est beaucoup plus simple de suivre le chemin ouvert par d'autres que de vouloir l'ouvrir soi-même. Et de toute façon, sur Compostelle, nous suivons des chemins qui ont été tracés par d'autres.
Mais justement, il y en a d'autres qui nous ont précédés, sur tous les chemins Compostelle et autres, dans tous les sens du mot.
Oui. Au cours de tous mes voyages, ça a été comme ça.
Je disais en introduction que vous avez visité énormément de pays.
Oui, je suis allé dans plus de 90 pays. Et au cours de tous ces voyages, je ne me souviens pas être passé par des terres qu'on pourrait appeler vierges, par des lieux où j'aurais été le premier à passer. Vous savez, le défricheur, là.
Oui.
Mais,
oui.
Par exemple, au cœur de la forêt amazonienne ou sur les pistes de l'Himalaya, j'ai toujours marché sur des chemins ouverts ou battus par d'autres.
Et vous étiez seul, toujours?
Rarement. J'ai souvent eu besoin de guides et ils m'appuyaient, et ils s'appuyaient, mes guides sur d'autres qui les avaient précédés. Alors, les meilleurs guides ont eux-mêmes des maîtres. C'est comme ça que la vie est faite. Par exemple, il y a un endroit où on passe sur le plus fréquenté des chemins en Espagne, le Camino Francés. Il y a un endroit où on passe qui s'appelle la Sierra de Atapuerca. C'est un petit peu avant Burgos, une vingtaine de kilomètres avant la très belle ville de Burgos. Bien là, il y a des pèlerins qui passent là et qui ne le savent pas, mais ils marchent sur les traces de très anciens cousins. Là, on a retrouvé les ossements de Homo antecessor, de Homo heidelbergensis, pour utiliser les mots latins, de l'homme de Néandertal, etc. Cinq types de cousins hominidés qu'on a retrouvés dans une fosse sur le site d'Atapuerca. C'est classé au patrimoine mondial, ça. Donc, on marchait ici, là, il y a plus de 800 000 ans. On est revenu périodiquement au fil des millénaires et entre autres au fil des variations climatiques.
Alors, ce sont de très vieux chemins, en effet.
Ah, bien sûr. Certains chemins de Compostelle ont des assises plus récentes, cependant. Là. Ils empruntent parfois sur d'assez grandes distances, là, d'anciennes voies romaines. Donc, ça, c'est un autre type de passage de chemin. Là.
Ce qui veut dire environ 2000 ans.
Environ, oui, exact. Le Camino Primitivo, par exemple, il y en a un qui s'appelle le Camino Primitivo. C'est celui qui est le premier en ancienneté des chemins de Compostelle. Il débute à Oviedo. Alors, lui, c'est un chemin qui a été emprunté par Alphonse II, roi des Asturies. Il est considéré comme le premier pèlerin de Compostelle. Il est parti de sa ville, de sa capitale, avec sa cour au 9e siècle, pardon. Et puis, il s'est rendu en pèlerinage.
Il venait d'apprendre la découverte d'un tombeau attribué. C'est les termes qu'on utilise maintenant. On parle d'un tombeau attribué à l'apôtre Jacques. Alors, c'est comme ça que ce plus vieux chemin, là, le Primitivo, a été identifié. Puis, au Moyen-Âge, ben, chacun partait de chez soi là, pour aller en pèlerinage. Donc, il y avait à cette époque-là, on peut dire, presque autant de chemins qu'il y avait de pèlerins, puisqu'on ne prenait pas le bus, hein, on prenait pas le... On était au Moyen-Âge, là. Quand on se déplaçait, c'était surtout les cours qui se déplaçaient. Donc, ils avaient leur aéropage et puis leurs chevaux. De nos jours, les pèlerins et les touristes vont le plus souvent par ce qu'on appelle des chemins de grande randonnée. Donc, il y a une agence, une fédération, la Fédération française des chemins de grande randonnée. Et puis, certains de ces chemins-là, de grande randonnée, portent l'appellation de Compostelle.
Donc, ces chemins-là sont balisés, puis ça rend la vie des pèlerins un peu plus simple.
Hein? Ben voilà. Ils sont bien balisés aussi. Alors, c'est bien ça qui se passe. Donc, nous sommes là dans un lieu où il n'y a qu'à suivre. Voilà. La simplicité, c'est l'état, dans ce sens-là, de celui qui suit. Il suit le chemin balisé. Il suffit de repérer les balises, les bornes, le fléchage et de suivre, j'insiste. Les risques d'erreur sont rares. Et puis, ça facilite la détente intérieure, voyez-vous. C'est ça qui m'intéresse le plus actuellement. Mm-hmm. Bon, ben, à un moment donné, tellement bien détendu intérieurement qu'une distraction arrive. Alors, on peut errer, on oublie une balise parce que le fait que ce soit balisé, ça détend l'esprit. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, c'est pas très compliqué. On s'est trompé de chemin, on s'en aperçoit visuellement assez rapidement. Et puis, on dit, OK, je me suis trompé, donc qu'est-ce que je fais? Ben, je fais marche arrière, hein, parce que mon métier de pèlerin, c'est de suivre. Alors, je fais marche arrière, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si c'est pas compliqué, c'est simple. Et c'est à l'image de ma vie aussi, hein, parce que je ne veux pas parler pour vous, là, puis pour nos auditeurs non plus, mais moi, dans ma vie, ça m'est arrivé de me tromper puis de devoir revenir sur mes pas, là. Donc, ceux qui songent à marcher vers Compostelle doivent savoir ça, qu'ils n'auront qu'à suivre et qu'on se calme l'esprit, là, et vous ne serez pas perdus au milieu de nulle part. Puis, il y a autre chose que je vais ajouter par rapport à ceux qui songent à marcher vers Compostelle. Ils cherchent des guides. Autrefois, on avait des guides papier, des guides édités. Il y en a encore. Qui sont vendus en format papier ou en format numérique. Mais les pèlerins, ils recherchent aussi des conseils. Et pour cela, eh ben, il y en a un certain nombre qui fréquentent des associations d'anciens pèlerins, comme par exemple l'Association du Québec à Compostelle. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, il faut qu'ils aient, comme je le disais dans une chronique antérieure, un minimum de docilité et suivre, encore une fois, les conseils qui vont leur être donnés par des gens très expérimentés qui sont les leaders de ces associations, comme l'Association du Québec à Compostelle. Donc, ce serait intéressant. Nous pourrions peut-être placer sur le site de l'émission les informations concernant cette association. Ça pourra peut-être être utile à quelques-uns d'entre vous, chères auditrices et chers auditeurs, dans la mesure où vous avez précisément cette simplicité qui est de suivre guide et les conseils.
Donc, vous comparez le chemin à la vie.
Absolument, c'est tout pareil. Il me faut des guides, de solides et bonnes indications pour bien avancer dans la vie. Et quand je n'en ai pas eu, ben, je me suis fourvoyé. Ces guides, c'est comme on le dit souvent, ce sont les sages. Il faut les suivre, tout simplement. Mais ils sont rares, hein? Ils ne sont pas très nombreux, auxquels on pourrait attribuer le nom de sages. Ils ne sont généralement pas très à la mode, surtout pas à la mode du jour. Alors, suivre les conseils et les avis des sages avec docilité, avec discernement aussi, mm-hmm. avec simplicité, c'est... sur les longs chemins de Compostelle et sur les longs chemins de la vie, une bonne voie à prendre.
Donc, je vais pas à pas, mon sac est léger, je me laisse guider, tout cela conduit ou tient de la simplicité. Est-ce qu'il y a autre chose?
Oui, j'en ai plein sur la simplicité. Un autre champ de force de la simplicité me conduit au délestage de mes attentes. Bon. Alors, vous savez, quand on part pour une aventure, on se fait, comme on dit, des idées. Et puis, si les idées et les attentes sont moindrement élevées, on sait ce qui se passe par la suite. C'est les frustrations, la déception, ça ne correspond pas à ce que j'avais. En chemin, le plus simple, c'est de réduire, faire le délestage autant que possible de la plupart des attentes et d'accueillir alors tout ce que le chemin propose tel qu'il le propose. Alors, laissons venir le chemin. N'anticipons rien. Soyons prêts à tout. Lâchons prise. Et je peux vous dire, après plus de 500 jours de marche, j'avais fait un point qui était le suivant. J'avais écrit dans mes notes ceci, donc je ne vous lis pas souvent mes notes, mais là, je vais vous lire un petit passage là, que j'avais écrit. C'est le suivant. À mes débuts, je ne savais pas m'arrêter. C'est vrai. C'est comme si je craignais de perdre mon temps. C'est aussi évident que ça quand je regarde dans mon rétroviseur. C'était comme si un temps d'arrêt me semblait un temps perdu. Alors, ce que j'ai écrit, c'est ceci. Tout le temps qui passe n'est-il pas pour toujours un temps perdu? Alors, aussi bien le prendre simplement quand il passe pour qu'il ne soit perdu qu'après avoir été pleinement vécu. Voilà mm-hmm. une des considérations que le chemin m'a appris. Parfois, je me questionne par quelle transformation mon paysage intérieur s'est-il constitué? Par quel autre parviendra-t-il à occuper cet espace dont la profondeur est un appel à la simplicité si nécessaire en chemin et si indicative d'une vie où le silence régnerait?
Donc, on en arrive au délestage, non seulement matériel, mais des préoccupations.
Des préoccupations mentales de toute nature, par exemple la météo. Quel temps il fera demain? C'est très simple, je vais vous le dire, demain en fin de journée, et je ne me tromperai jamais en procédant ainsi. Et puis, de toute façon, sur le chemin, on avance hein, tous les jours. Tous les matins, nous reprenons le chemin. Donc, c'est ainsi que c'est fait. Alors, je crois que je n'aurais pas cependant senti si intensément cet appel à la simplicité et aussi au silence si je n'avais pas tant marché. Maintenant, j'en suis bien conscient de tout cela. Donc, il faut aussi accepter que les apprentissages que l'on fait du côté de la simplicité prennent le temps nécessaire pour se faire. Alors, j'ai dressé à un moment donné un bilan que j'estimais provisoire. Je m'en souviens très bien. C'était au terme de mon premier chemin, 64 jours de marche. Et j'ai écrit ceci. Plus la durée de la marche est longue, plus je m'éloigne de mes occupations et de mes préoccupations usuelles. Bien, je peux vous dire aussi que quand j'ai fait mon premier chemin, vous vous imaginez, après ça, j'ai été plus de 2 ans en voyage ailleurs autour du monde avec mon sac à dos. Et donc, là, évidemment, mes occupations habituelles et mes préoccupations habituelles se sont en allées très loin. En chemin, là, ma règle, c'est, dans toute la mesure du possible, pas de radio, pas de télévision, pas de journaux, absence de manipulation médiatique. Je suis très heureux de le dire sur les ondes de mon poste de radio favori. Mais il faut aller vraiment à l'essentiel en chemin, éviter la persuasion clandestine qui nous injecte des besoins artificiels et qui incite à consommer. Alors, on est à l'opposé sur le chemin. Ce sont mes besoins primaires qui m'occupent sur le chemin et de manière importante. Donc, qu'est-ce que c'est qui m'occupe? Ben, c'est la journée actuelle. Donc, je veille à me procurer les vivres nécessaires pour aujourd'hui. Je veille à m'alimenter sainement. Je veille à boire au moins 2 litres d'eau par jour. Plus que ça encore en temps, disons, de canicule. Je veille à me protéger des intempéries ou d'un soleil ardent. Vous savez, toutes ces situations qui font la journée et qui n'empiètent pas sur le lendemain. Donc, quand ces besoins-là sont satisfaits, eh bien là, je suis capable de m'établir dans une paix intérieure solide, positive. Je retrouve je découvre ou redécouvre mes zones affectives et spirituelles. Alors, c'est comme ça que le chemin m'apparaît au terme de ces années de marche où j'ai parcouru en moyenne quelque chose comme 23, 24 ou 25 kilomètres par jour. Et puis finalement, c'est pas important, est-ce que c'est 22, 23 ou 24, peu importe. Donc, et puis, je compte laisser au temps qui vient le soin d'encore mieux décanter tout cela. Donc, 17 000 kilomètres se sont ajoutés à mes premiers pas. Le décantage est fait. C'est long, c'est lent, mais c'est mon bilan.
Et quel bilan après toutes ces années, Yves? Alors, vous nous avez parlé de la simplicité, dans sa plus simple expression, la simplicité matérielle, la simplicité mentale. Qu'est-ce que vous nous réservez pour la prochaine?
La prochaine, nous allons parler de la simplicité psychologique ou spirituelle.
Encore un autre beau voyage. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup et à la prochaine.
À la prochaine, Denis. Thank you.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions qui y sont archivées. Aussi, sur le site Je marche partout, où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Merci beaucoup à Yves de Belval, notre globe-trotter philosophe, que nous retrouverons avec grand plaisir au fil des mois à venir. Pour celles et ceux qui aimeraient en savoir davantage au sujet de nos artistes invités, Noémie Raymond Friset et Michel-Alexandre Brocart, je vous invite à consulter le site web duocavatine.com. Merci également à Xavier Gauvin et Valérian Fournier à la technique. Et comme toujours, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse sur cette pensée de Michel Serres. Une idée ne vient pas forcément en marchant, elle vient quand elle veut. Mais elle vient d'un autre monde avec lequel on peut entrer en contact par la marche. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.